le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 29 mars. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'Algérie de nouveau dans la rue aujourd'hui. Sixième vendredi de mobilisation contre un président et un système de moins en moins soutenu, mais toujours en place. Les autres titres, Agnès.
Le rendez-vous manqué du Brexit. Les députés britanniques continuent de se déchirer sur les conditions du divorce. Nouveau vote prévu cet après-midi. La campagne pour les européennes sur l'île de la Réunion où le taux d'abstention atteint des records. Et puis faut-il rebaptiser le syndrome d'Asperger après les révélations sur le passé du docteur Asperger?
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 au micro d'Ali Badou, l'auteur prolifique de polar américain Michael Connelly. Il lance une nouvelle série avec une nouvelle héroïne, volume 1 en attendant le jour. C'est chez Kalman Levy. 8h20, un anniversaire dans le grand entretien de la matinale. Les 30 ans de la pyramide du Louvre, devenue après les premières polémiques fondatrice, une icône architecture mondiale. On en parlera tout à l'heure avec le président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez. Dialoguez avec lui, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Les uns après les autres, ils ont lâché le vieux président. Hier, c'est le patron des patrons algériens qui a démissionné. Avant lui, c'est le Rassemblement National Démocratique, dont le leader était encore Premier ministre il y a moins d'un mois, qui a appelé Abdelaziz Bouteflika à démissionner, suivi de la principale centrale syndicale du pays. Et puis, il y a eu bien sûr en début de semaine le lâchage surprise du chef d'état-major des armées. Alors, écarter Abdelaziz Bouteflika, suffira-t-il à répondre aux aspirations des Algériens? Ce sera tout l'enjeu de ce sixième vendredi de manifestation. Mathilde Dehimi est à Alger pour France Inter.
Les rues sont plus calmes qu'un jeudi soir ordinaire. Les policiers patrouillent autour de la grande poste. Des contrôles renforcés qui n'impressionnent pas ce jeune.
Le peuple est déterminé et ça ne changera pas, même si les policiers viennent nous frapper. On ne lâchera rien.
Quelques klaxons accueillent les premiers vendeurs de drapeaux déjà installés, Rudy Douche. La mobilisation permettra de savoir si les Algériens sont convaincus par la proposition du chef d'état-major des armées. Ahmed Gaïd Salah veut démettre Abdelaziz Bouteflika de ses fonctions pour raison de santé, mais cette sortie de crise ne convainc pas du tout.
Gaïd Salah a trop tardé avant de lancer cet appel. Il aurait fallu le faire plus tôt, car là, ça ressemble à de l'opportunisme. Il aurait fallu accéder aux demandes du peuple bien avant. On va continuer à manifester jusqu'à ce qu'il dégage. On ne lâchera pas l'affaire.
Le peuple fera sans le système, renchérit son ami. On va trouver de nouvelles personnes compétentes pour diriger ce pays, explique-t-il.
Ils sont en train d'arnaquer le peuple pour gagner du temps. Et eux, ils sont en train de faire leur magouille entre eux. Gaïd Salah ne nous a pas rejoints le 22 février. Ça sert à rien qu'ils le fassent maintenant.
À un mois de la fin officielle du mandat présidentiel, la défiance envers les autorités politiques et militaires reste entière. Alger, Mathilde Dehimi, Gilles Gallinaro, France Inter.
Ce vendredi 29 mars devait être le jour J, le jour du Brexit, mais rien ne s'est passé comme prévu. Près de 3 ans après le vote des Britanniques, la situation reste très incertaine. Les Européens ont accordé un délai supplémentaire aux députés qui ont jusqu'au 12 avril pour se mettre d'accord. Les députés qui vont cet après-midi se prononcer une troisième fois sur le projet négocié par Theresa May avec Bruxelles. Si le oui l'emporte, les Britanniques auront jusqu'au 22 mai pour organiser le Brexit. Si le non l'emporte, plusieurs scénarios restent possibles, dont celui d'un no deal. Le feuilleton britannique aura-t-il des répercussions sur les élections européennes dans 2 mois? Le scrutin est souvent boudé par les Français. Rappelons d'ailleurs qu'il vous reste 2 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Et le taux d'abstention atteint des records en Outre-mer. C'est l'une des raisons du voyage de Marine Le Pen cette semaine dans l'océan Indien. Sur l'île de la Réunion, par exemple, aux européennes de 2014, à peine 20% des électeurs s'étaient déplacés. Maxence Lambrecq s'est rendu dans la commune de Saint-Paul, sur la côte est de la Réunion, où les habitants ont l'impression d'être très loin de l'Europe.
À 10 000 km de Bruxelles, à l'ombre des cocotiers, au bord d'une fontaine, ces élections semblent très lointaines.
Ma famille n'a jamais été très axée politique, donc ça me passe au-dessus de la tête. Surtout en tant que jeune, on ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir, qui écouter, qui croire, on ne sait plus.
Vous ferez quoi, vous, le 26 mai?
C'est un dimanche, c'est ça? Je serai à la plage avec mes enfants.
Une abstention liée à la distance, liée aussi aux nombreuses condamnations d'élus ultramarins qui aboutit au tous pourris. Et puis il y a aussi une question de date qui n'a pas échappé au maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé.
C'est difficile d'aller voter le 26 mai 2019 parce que c'est la fête des maires. Donc il faut aller au plus près des gens pour leur expliquer si leurs enfants vont au lycée, c'est grâce au Fonds social européen. allez voter.
L'UE finance en effet de très nombreuses infrastructures outre-mer. Cet appel au vote, Marine Le Pen le relaie ici dans les médias, mais pour une toute autre raison.
Nous sommes les premières victimes de l'abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous abstenez, si vous n'allez pas voter aux européennes, vous donnez une demi-voix à Macron. Il va se sentir pousser des ailes.
La patronne du RN veut donc en faire le troisième tour de la présidentielle. Une élection qui suscite ici trois fois plus de participation. Saint-Paul, Maxence Lambrec, France Inter.
Élection encore et cette fois, la campagne pour Paris est bel et bien lancée à un peu plus d'un an des municipales. Et c'est Place de la République que Benjamin Griveaux, tout juste libéré de ses obligations de porte-parole du gouvernement, a annoncé hier soir sa candidature à l'investiture de La République En Marche.
Je vais mettre fin à un suspense absolument intenable. Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouve le plaisir et la fierté de vivre à Paris. On va en finir avec la gestion clanique de Paris. On va en finir avec l'incessant alternance gauche-droite dont on ne sait plus bien d'ailleurs à quoi elle rime. On a un Everest à affronter. Mais cette montagne, on va la gravir ensemble, en écoutant, en associant et en décidant.
Et c'est en juin que la commission d'investiture LREM désignera le ou la candidate qui affrontera notamment la maire sortante Anne Hidalgo. Un new deal entre l'État et les collectivités locales, c'est ce que Xavier Bertrand veut proposer au chef de l'État. Le président des Hauts-de-France est reçu aujourd'hui à l'Élysée avec d'autres élus de la région dans le cadre du grand débat national. Xavier Bertrand qui détaille ce matin dans le Figaro son plan de décentralisation qui passe notamment par la fusion des élus départementaux et régionaux pour diminuer le nombre de conseillers. Et à la veille de l'acte 20 des Gilets jaunes, Avignon est en état de siège. Le préfet du Vaucluse a interdit pour demain la manifestation d'ampleur nationale annoncée via les réseaux sociaux. Les préfets de Toulouse et Rouen ont également interdit demain toute manifestation dans les centres-villes pour tenter d'éviter les violences et les pillages. Parmi ces violences, les dégradations de radars. 60% sont aujourd'hui neutralisés ou détruits, selon le ministre de l'Intérieur. Et cela a un coût financier à long terme, un manque à gagner de 600 millions d'euros de recettes fiscales en moins pour le budget de l'État en 2018 et 2019, selon un chiffre révélé par les Échos et confirmé par Bercy hier soir. Dominique Seuil reviendra dans sa chronique Échos tout à l'heure à 8h moins le quart.
Il est 7h07, Agnès. Bruno Le Maire proposait hier d'investir dans les entreprises françaises. La banque Goldman Sachs propose, elle, d'investir dans le Spritz.
Un fonds de Prosecco, une dose d'Apérol ou de Campari, un peu d'eau gazeuse, une tranche d'orange et quelques glaçons. C'est la recette gagnante d'un cocktail venu d'Italie qui est en train de conquérir le monde entier. Après l'Europe, le Spritz est parti à l'assaut des États-Unis. Quand un apéritif italien se transforme en mine d'or pour l'Italie, une saga commerciale qui ne doit rien au hasard et que nous raconte Laurent Kramer.
Selon Goldman Sachs, le chiffre d'affaires des ventes de Spritz devrait progresser de 50 à 60% chaque année jusqu'en 2024 aux États-Unis. De quoi assurer une progression historique à ses fabricants, souligne le banquier d'affaires. Acheté au début des années 2000, la marque Aperol, apéritif alors désuet et confidentiel, consommé uniquement à Venise depuis 1919, est devenu, grâce à une stratégie marketing répétée dans chaque pays, un phénomène mondial qui génère aujourd'hui 10 milliards d'euros de valeur boursière pour la marque Campari, formation gratuite de barman dans les quartiers branchés puis les stations de ski, distribution dans les grandes surfaces pour les familles jusqu'aux réseaux sociaux où le Spritz est innocemment célébré par de grandes stars hollywoodiennes. Le fabricant italien de l'Aperol génère ainsi avec son apéritif vedette près de 2 milliards d'euros de revenus chaque année.
Plusieurs décisions de justice très attendues aujourd'hui à Toulouse. L'avocat général a requis hier l'acquittement au bénéfice du doute. Laurent Dejean est accusé du meurtre de Patricia Bouchon, tuée alors qu'elle était partie faire un jogging en février 2011 à Boulogne. Il est possible que Laurent Dejean soit coupable, mais les preuves font défaut, a expliqué l'avocat général. Verdict aujourd'hui. Et puis à Paris, la cour d'appel doit déterminer si Jawad Ben Daoud savait qu'il hébergeait les deux djihadistes des attaques du 13 novembre dans un appartement de Saint-Denis. Il avait été relaxé en première instance. Lui a échappé à la justice, mais son passé est en train de le rattraper. Le docteur Hans Asperger, qui a donné son nom au syndrome autistique bien connu, était peut-être un nazi. C'est la thèse que soutient l'historienne Edith Schaeffer dans son livre Les enfants d'Asperger. Elle décrit le psychiatre autrichien mort en 1980 en nazi et assassin d'enfants. Une thèse qui émeut évidemment les familles. Alors faut-il rebaptiser le syndrome ? Véronique Julia a posé la question à des associations.
La thèse circule déjà depuis quelques mois. Asperger, le gentil docteur, serait en fait un partisan de l'eugénisme, un artisan de la politique d'euthanasie des enfants dits anormaux mis en œuvre par les nazis en Autriche. Il aurait été à l'époque personnellement responsable de l'assassinat de dizaines d'enfants. Pour les associations qui s'occupent d'autisme, cette révélation, si elle est vraie, est un choc. Christine Ménien préside Sésame Autisme. Il faut trouver, dit-elle, une autre façon de nommer le syndrome, bannir en tout cas Asperger.
Moi, je pense qu'on pourrait tout à fait reprendre le terme autisme de haut niveau ou autisme sans déficience. S'il y a un doute sur le passé de ce monsieur, il vaut mieux oublier ce terme-là, oui.
Et les principaux concernés désignés en tant qu'autiste Asperger, qu'en pensent-ils ? Alexandra Reynaud est diagnostiquée comme telle depuis 10 ans. Elle en a même écrit un livre, Asperger est fière de l'être, il y a 2 ans. Pour elle, Asperger fait désormais partie du langage courant et ne la choque pas, d'autant que ce n'est pas lui, dit-elle, qui s'est attribué la paternité de ce syndrome.
Lui a simplement mené les travaux. Ses écrits ont totalement été oubliés. Et presque 40 ans après, c'est une psychiatre britannique qui s'appelait Lorna Wing qui l'a dénommé de son propre chef syndrome d'Asperger en 1981.
Et si on parle couramment d'Asperger, le lexique purement médical ne l'utilise plus vraiment depuis quelques années. On parle désormais de troubles du spectre autistique à des degrés divers.
Il est 7h11, Agnès, la nouvelle série française à découvrir sur Netflix.
Avec un sujet très grand public, une application qui vous permet de trouver l'âme sœur sur fond d'intelligence artificielle, Osmosis, c'est son nom, débarque aujourd'hui sur la plateforme de streaming. Alexandra Kuhn l'a vu pour nous.
Imaginez un futur pas si éloigné où votre meilleur ami serait une intelligence artificielle.
Oui, Martin.
Tu es en retard pour le briefing de Paul.
Super.
Ironie détectée.
Où le virtuel aurait pris le pas sur le réel.
Ton meilleur orgasme.
En virtuel avec un avatar.
Un futur où une application vous promettrait l'amour absolu.
Rencontrer enfin son âme sœur, c'est là tout le potentiel d'Osmosis.
Mais les choses, on le sait, se passent rarement comme prévu. Après la désastreuse Marseille et l'insipide Planqueur, c'est peu dire que cette troisième production Netflix en France, adaptée d'une web-série d'Arte Créative, était attendue, la première d'anticipation. Le visionnage des 2 premiers épisodes, les seuls mis à la disposition de la presse, est présenté à Sérimania, éveille la curiosité, les thèmes abordés collent à l'air du temps.
Beaucoup plus de gens seuls qu'avant, les réseaux sociaux, alors que c'était quelque chose qui permettait la communication entre les gens, et c'est vrai que parfois c'est le cas, et ça isole aussi.
Hugo Becker, interprète de Paul, créateur dans la série avec sa sœur Esther, d'Osmosis.
Une application comme Osmosis qui permettrait d'atteindre un équilibre émotionnel parfait, c'est quelque chose qui évidemment intéresserait les gens. Le vrai problème, c'est contre quoi ?
Mais entre multiplication des intrigues et des dialogues explicatifs, l'ensemble manque souvent de rythme et peine à convaincre. Espérons que la suite contredira tout cela.
Bienvenue dans Osmosis.
Et puis comme les histoires d'amour finissent mal en général, cette saga judiciaire qui nous vient des États-Unis où une femme a obtenu une pension alimentaire 50 ans après la date du divorce. L'ex-mari avait pris la poudre d'escampette peu après la séparation. Il vient d'être retrouvé et va devoir payer 133 000 euros à son ex-femme, intérêt compris.
Voilà, donc c'est une histoire qui finit bien. Merci Agnès Soubiran. La route, bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
Maureen, il faut ralentir dans les Hauts-de-France.
Oui, aujourd'hui dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, vous devez abaisser votre vitesse de 20 km/h sur les grands axes, résultat d'un arrêté préfectoral qui vise à limiter la pollution atmosphérique. En région parisienne, c'est au nord, sur l'A86 extérieure que ça coince en ce moment, près de 10 km de bouchons de Bobigny à Lille-Saint-Denis.